C'est tout en douceur que nous allons recevoir nos invités. Elsa Ribe, qui représente Agribio 04 et qui est accompagnée d'une administratrice de cette association qui s'appelle Claire Joubert, qui est agricultrice. Et puis accompagnée aussi d'un homme qui s'appelle Clément Denier et qui est lui-même agriculteur. On va parler de Ferme en Ferme, un événement qui est organisé par Agribio 04. Allez, on atterrit en douceur. Bonjour Elsa Ribe.
Bonjour.
Tu nous as contacté la semaine dernière, ou il y a une quinzaine de jours peut-être, pour nous parler, oh, il y a même plus longtemps que ça, le temps passe vite. Tu nous as contacté pour nous parler d'un événement qui s'appelle « De ferme en ferme ». C'est organisé par Agribio. Est-ce que tu peux nous présenter déjà qu'est-ce qu'Agribio 04 ?
Oui, bien sûr. Du coup, Agribio 04, c'est une association qui est le groupement des agriculteurs bio du 04. Et elle est gérée par 11 agriculteurs qui ont des salariés, donc 5 en tout. Et le but de cette association, c'est de promouvoir, d'accompagner l'agriculture biologique, aussi de la représenter du coup dans le 04. Et elle organise des formations, des suivis d'agriculteurs, des conseils et de l'accompagnement. Et depuis du coup 2015 maintenant, elle s'occupe de l'organisation de l'événement De Ferme en Ferme dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Dont nous allons parler d'ailleurs avec les deux autres personnes qui sont là. On va en profiter pour saluer Claire Joubert.
Bonjour.
Claire Joubert, qui est agricultrice. Agricultrice depuis toujours ou c'est récent? Comment est-ce qu'on devient agriculteur quand on est jeune?
Donc moi, j'ai grandi sur la ferme de mes grands-parents à Fort-Calquier. Et je me suis installée comme agricultrice en 2017. Et depuis, donc on est installés tous les deux avec Damien, mon mari. Mmh. On a des poules pondeuses, des vaches, des oliviers. On fait des confitures, de l'huile d'olive. Et on est l'une des premières fermes de France à avoir eu le label bio dans les années 1980.
Il y a toute une histoire derrière. Alors déjà, il y a l'histoire familiale, puisqu'il y a eu une transmission, de patrimoine. Vous avez, comment ça s'est passé pour vous, par exemple? C'est juste pour situer un petit peu. Vous êtes agriculteur de père en fils.
Alors,
et de mère en fille.
C'était de père en fils, ouais. Depuis le grand-père de mon grand-père.
Ah, donc oui,
il
quand même,
transmis,
ouais, donc
à un de ses enfants, survivant de la Première Guerre mondiale. Puis cet homme-là l'a transmis à un de ses fils, donc mon grand-père. Ensuite, ça a sauté une génération, puisque ma mère est prof de musique. Et pour avoir grandi sur cette ferme, depuis toujours, je voulais devenir paysanne. Et donc, une fois que j'ai eu l'âge et la maturité, je me suis lancée.
Il y a une formation spécifique, je suppose, pour devenir... Il faut passer des diplômes ou alors on apprend sur le tas, ou peut-être les deux, je ne sais pas. C'est pour les auditrices et les auditeurs qui comprennent exactement comment on devient. Bon, on peut avoir une terre, on peut hériter d'une terre, on peut acheter une terre, mais bon, il faut un savoir-faire, je pense.
Alors, les chemins pour devenir agriculteur sont divers et il y a autant de chemins qu'il y a d'agriculteurs, je pense. Moi, j'ai choisi de faire une école d'ingénieur agronome à Montpellier avant de m'installer, pour me laisser le temps de grandir, de voir d'autres choses. Et une fois que j'ai eu fini cette école-là, j'ai beaucoup appris sur le tas et aussi via des formations que proposent notamment Agribio 04 ou les ADAR, qui étaient des formations très précises sur des sujets techniques. Et c'est ça qui m'a donné les premières bases pour devenir agricultrice. Et après, on apprend beaucoup aussi au contact des techniciens, au contact des vétérinaires qui nous suivent. Et puis, ben, y a l'expérience quand on pratique. Au fur et à mesure, on se rend compte de certaines choses qu'on ne pensait pas forcément au départ. Et puis, voilà, je pense que de toute façon, un agriculteur n'a pas fini d'apprendre des choses toute sa vie, puisque là, on travaille avec le vivant. Donc, y a tellement de choses à savoir. Et puis, avec les changements climatiques, le métier est beaucoup remis en question, notamment là, cette année, avec la sécheresse qui s'annonce.
Parcours, témoignage, c'est une façon de se présenter. Je vais me tourner maintenant vers Clément Denier, qui est agriculteur, lui aussi. Et je vais lui poser la même question. Comment est-ce qu'on devient agriculteur, Clément? Tu as l'air jeune. Je ne sais pas quel âge tu as. Tu as moins de 40 ans.
Ouais, bonjour. je vais avoir 40 ans année.
T'es un jeune, jeune agriculteur. Comment est-ce qu'on devient agriculteur pour toi?
Pareil, moi, j'ai fait des études aussi, BTS, agriculture. Et par contre, contrairement à Claire, je n'ai pas hérité de terre et je n'ai pas été dans la continuité de mes parents ou de mes grands-parents. Quoi, si, mon grand-père, quand même, qui était agriculteur, mais après, il y a eu une coupure. Et je n'ai pas fait ça de suite, en fait. J'ai trouvé un autre boulot dans la fonction publique. Et puis là, je suis en pleine reconversion professionnelle. Donc, c'est tout récent, en fait, l'installation.
Mmh. Tout d'abord, une idée qui prête à sourire fait son chemin en vous discrètement. N'osant l'envisager, vous la laissez mûrir. Et voilà qu'un matin, elle se peut vraiment, je dis, la laisser mûrir, parce qu'il faut laisser mûrir les graines. Comment ça pousse une idée comme ça, une graine d'idée comme ça, cet appel? Il y a un appel de la terre?
L'appel de la terre, mais après, en haut de... Déjà, il y a l'appel, mais après, il faut avoir l'opportunité d'avoir des terres. Donc, ce qui n'est pas évident par ici. Après, je ne sais pas ailleurs si c'est évident, mais ici, j'ai quand même cherché quasiment 4 ans un bout de terrain pour pouvoir m'installer. Et une fois qu'on a trouvé ça, donc c'est sûr qu'on avait tout le bagage donc agricole et tout ça. Donc, j'ai pu lancer un peu l'idée, lancer l'exploitation qui a démarré l'année dernière en août. Donc c'est vraiment tout récent.
C'est tout récent et comme disait tout à fait justement certainement Claire Joubert tout à l'heure, eh bien il y a autant de chemin qu'il y a d'agriculteurs en fait. Vous en êtes un témoignage là, ici et maintenant. Je reviens vers Elsa Rib qui va nous parler. Donc effectivement on a bien compris, il y a une association qui est de soutien aux agriculteurs. Agribio 04. Tu peux nous en parler encore peut-être. Ça a commencé quand, l'histoire de la création d'Agribio 04?
En 98, je pense laisser Claire plus en parler car elle est administratrice de cette association.
Donc Agribio 04 a été créé en même temps que l'ensemble du réseau bio national. Donc c'est une déclinaison départementale d'un réseau qui est plus vaste, qui est le réseau FNAB, qui s'exprime au niveau national. Et ensuite, il y a un autre niveau qui est un niveau régional. Donc nous, en PACA, on a bio de PACA. Et ensuite, dans chaque département, il y a un agribio. Donc pour nous, agribio 04. Dans le 05, il y a agribio 05. Et ainsi de suite pour chaque département de PACA. Et ce réseau-là a émané en même temps que le développement de l'agriculture biologique pour accompagner les agriculteurs qui souhaitaient faire une transition entre des techniques conventionnelles qui utilisent des pesticides vers des techniques qui n'en utilisent plus. Donc avec notamment des diagnostics de conversion et aussi des formations.
Tu peux nous préciser ce que c'est qu'un diagnostic de conversion?
Alors, un diagnostic de conversion, ça consiste en l'état des lieux de la ferme au moment où elle est encore en agriculture conventionnelle. Et ça permet d'évaluer quelles sont les activités possibles pour l'agriculteur avec son terrain. Et aussi un niveau de revenu qu'il souhaite atteindre en bio. Voilà, donc ça permet d'évaluer quelles sont les stratégies pour lui pour passer en agriculture biologique sans mettre à mal sa ferme. Voilà.
C'est très très clair, merci d'avoir donné cette précision, parce qu'il y a des termes techniques qu'il faut expliquer, expliciter, parce que sinon après on ne sait pas de quoi on parle. En tout cas, ce soutien apporté, bon, on rappelle, bon, ça c'est donc cette association est née en même temps que ce gros mouvement autour du bio. Et puis il y a des transitions, si j'ai bien compris, il y a des gens qui sont pas, qui n'ont pas le label bio, mais qui utilisent des techniques qui sont les mêmes. Alors comment on fait pour avoir un label bio aujourd'hui? Parce que je rencontre souvent, moi, quand je vais faire mes courses sur le marché, je rencontre souvent des gens qui n'ont pas le label bio, et je suis allé visiter leur lieu de production et on s'aperçoit qu'ils utilisent des techniques qui sont tout à fait acceptables et qui n'utilisent pas de pesticides.
Alors, l'avantage du label bio, c'est que c'est une reconnaissance donc qui est payante pour l'agriculteur, c'est-à-dire que l'agriculteur paye un organisme certificateur indépendant qui vient chez lui et qui contrôle ses pratiques. C'est-à-dire que tous les consommateurs n'ont pas la possibilité d'aller voir tous les producteurs pour être sûrs de la manière dont ils travaillent. Donc, le label bio sert justement à garder la confiance du consommateur envers ses pratiques, pour qu'elles soient respectueuses de l'environnement et de la santé du consommateur.
Est-ce qu'il y a une notion de territoire? Parce que, bon, mon petit doigt m'a dit qu'il y avait différentes sortes de bio, notamment sur le territoire européen, parce que bon, nous ici, on est dans un pays de cocaïne dans le 04. On peut trouver des gens qui fabriquent des bons produits de manière sûre, et on peut même aller visiter leurs fermes, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on fait nos courses, on trouve du bio espagnol, on trouve du bio italien, souvent il y a un débat dont on entend parler dans différents médias sur le fait qu'il y a des normes qui ne sont pas tout à fait les mêmes d'un pays à l'autre, et donc du coup, quand on est consommateur, parce qu'en fait l'idée c'est de bien se nourrir, de bien manger des produits qui sont produits avec amour, j'allais dire, par les agriculteurs. Alors, juste un petit point d'éclaircissement là-dessus sur les normes qu'il y a d'un pays à l'autre.
Alors, donc, depuis quelques années, il y a à l'échelle européenne, un cahier des charges qui doit s'appliquer dans chaque pays, donc avec des règles strictes qui doivent être respectées pour avoir le label bio. Et ces cahiers des charges, donc ces réglementations bio, doivent être régulièrement être mises à jour, parce qu'il y a toujours des choses auxquelles on ne pense pas. Quand à la base l'agriculture biologique a émané de petits paysans qui souhaitaient valoriser des pratiques respectueuses de l'environnement, de l'homme, de la terre, de l'animal et des gens qui consomment ces produits, ils n'avaient pas anticipé que l'industrie puisse, à un moment donné, s'accaparer ce marché-là, qui était un marché prometteur, puisque les consommateurs, pour leur santé et la santé de la planète, avaient fait le choix de favoriser ces produits-là. Et donc, à un moment donné, il y a pu y avoir des interprétations du cahier des charges en défaveur de ce même cahier des charges par des industriels désireux de faire main basse sur ça et de faire de l'argent, et toujours de l'argent, avec la même logique industrielle. Donc, c'est ça que l'on cherche à éviter, et c'est pour ça que le cahier des charges est mis à jour régulièrement en essayant de mettre le doigt sur ces dérives-là industrielles pour que le consommateur puisse être protégé, la nature protégée, les animaux protégés et les paysans aussi protégés.
Je vais me... Merci pour ces explications qui sont très claires. Et on va te réinviter pour que tu nous parles de tous ces sujets, parce que c'est intéressant. C'est intéressant d'informer d'une manière très claire comment ça se passe.
Avec plaisir.
Parce qu'on entend souvent beaucoup de choses qu'on peut interpréter. Et là, tu nous dis clairement, quand quelque chose commence à fonctionner et qui est beau à la base, il y a toujours une espèce de mainmise de production industrielle, parce qu'il y a cette notion ultra-libérale, n'en déplaise à ceux qui... J'ai rien contre l'ultra-libéralisme, je dis simplement qu'à un moment donné, ça peut être délétère pour la planète et puis pour un tas de gens. On est là pour le vivre ensemble et vivre bien et manger bien, c'est quand même très important. Je vais me tourner à nouveau vers Clément Denier, qui est agriculteur et qui, lui, visiblement, t'es dans une position un peu différente par rapport au bio.
Effectivement, moi, donc je suis éleveur, producteur de canards pour foie gras. Donc, je me suis installé dans le 04. Je suis natif du 04, hein, mais je me suis installé dans le 04 pour, essayer de changer un peu, de diversifier l'agriculture, l'élevage, parce que c'est vrai que par ici, on a beaucoup de moutons, de vaches, donc ça, on connaît. Et je me suis dit, pourquoi pas faire du foie gras des Alpes, quoi. Donc,
voilà. Oui, t'es parti sur un pari de créer un produit qui n'était pas forcément issu du terroir, mais d'en créer un, finalement.
Pas forcément. Au début, c'est vrai que je me suis dit, je vais essayer de m'installer, et puis c'est... Au gré de mes voyages, de mes vacances dans les Landes là-bas, c'est que l'idée a commencé à germer, en fait, et puis en revenant après dans le 04, quoi, on s'est dit, ben, pourquoi pas faire ça, quoi. C'est vrai qu'il n'y en a pas, et puis ça a l'air de prendre, donc oui, et c'est vrai que malgré tout, on ne trouve pas du foie gras bio. À partir du moment où on commence à gaver l'animal, le bien-être animal, il est un peu tendancieux, on va dire. Mais malgré tout, tout l'élevage, on le considère, quoi, pour ma part, ils ont quand même un hectare de liberté. Ils évoluent dans du pré et tout ça, avec tout ce qu'il faut pour grandir, quoi. Et c'est vrai que... Tout l'élevage est similaire au bio, on va dire. Mais à partir du moment où on fait du gavage, on ne peut pas avoir de l'appellation bio.
Bon, alors là, on pourrait même aller carrément sur un sujet qu'on entend souvent parler en ce moment, c'est sur la maltraitance animale. C'est un autre sujet qu'on pourra débattre une autre fois. Là, pour l'instant, on va continuer à parler de l'événement qui va venir de ferme en ferme, 23 et 24 avril 2022. On va faire une toute petite pause musicale pour se retrouver. Et on a bien compris qu'ici, le bio, c'était important, qu'il y avait des reconnaissances avec un label. Claire Joubert nous a expliqué exactement comment ça se passait avec ce cahier des charges. Et puis, Clément Denier, agriculteur, éleveur, qui nous a expliqué que lui, il avait des pratiques tout à fait bioéthiques, si c'est le bon terme, hein, surtout corrigez-moi s'il y a des pratiques bioéthiques pour nourrir ces animaux, mais en même temps, c'est sur la manière de gaver le canard où il peut y avoir un obstacle. En tout cas, c'est très très important de savoir comment sont produits les différentes, que ce soit de la production agricole sur tout ce qui est plantes, tout ce qui est blé, tout ce qui est, enfin bref, légumes en tout genre, et puis aussi évidemment l'élevage des animaux, pour savoir exactement comment ça se passe. Et le mieux, c'est d'aller les rencontrer. Et c'est ce qu'on fera certainement de ferme en ferme. Allez, on continue la petite pause musicale avec Daniel Mill, et puis on se retrouve juste après. Allez, ça va se passer le 23 et 24 avril 2022 de ferme en ferme, une opération annuelle incontournable sur le thème de l'agriculture durable. J'ouvre le micro à Elsa Rib, qui est chargée de communication à Agribio 04 et qui va nous en parler. Alors, c'est quoi de ferme en ferme ? Qu'est-ce qui va se passer dans cet événement ?
Alors, de ferme en ferme, c'est un événement qui a lieu chaque année le dernier week-end d'avril. Donc, cette année, comme vous avez dit, ça tombe bien le 23 et 24 avril 2022. Et c'est un événement où les agriculteurs participants ouvrent leur ferme pour accueillir des visiteurs qui sont des consommateurs le plus souvent lambda, qui veulent découvrir du coup l'agriculture et comment du coup les agriculteurs produisent. Et ça dure donc tout le week-end, les deux jours, de 10h du matin à 18h, avec des agriculteurs qui vont proposer des visites de leur ferme, des animations, des dégustations, des points de vente. C'est un événement qui est national et qui après est organisé au niveau régional par les CIVAM et dans le 04 du coup par Agribio 04. Cette année du coup sur le 04 il y a 9 fermes participantes sur 3 circuits différents pour permettre aux gens de du coup se déplacer de ferme en ferme, avec un circuit qui s'appelle Entre Lure et Durance qui est vers le territoire de Fort-Calquier avec 6 fermes participantes avec des productions diverses. Ça va de la production végétale avec des plantes aromatiques jusqu'à de l'élevage et des poules ponteuses où vous pourrez retrouver du coup Claire Joubert. Nous avons aussi du coup un deuxième circuit qui s'appelle Entre Durance et Verdon où il y a 2 agriculteurs qui participent, où ils ont des productions encore une fois diversifiées avec de l'huile d'olive, des plantes aromatiques et aussi des céréales. Et finalement le dernier circuit qui s'appelle le circuit des Hautes Terres de Provence, pardon, avec Clément qui du coup participe sur ce circuit et qui est, comme il s'est présenté tout à l'heure, le seul producteur de canard gras du 04. Donc c'est toujours intéressant donc d'aller se promener et voir les agriculteurs.
Les Hautes Terres, c'est sur Valensole?
Non, c'est non. Du coup c'est au-dessus de Digne, c'est sur la Robine sur Galabre.
Voilà, je précise parce que
oui.
On a un club des poètes des Hautes Terres et c'est sur Valensole, c'est pour ça. C'est pas le même territoire,
c'est pas la même production,
c'est de la production de poésie, c'est pas la même chose.
Non. Et donc voilà, c'est les informations principales. Pour durant le week-end, il y aura du fléchage pour pouvoir suivre arriver aux différentes fermes. Et un épouvantail sera présenté à chaque ferme qui participe. C'est comme ça qu'on se reconnaît quelle ferme participe ou pas.
Oui, parce que j'allais poser la question où.
Ou du coup sur tout le territoire.
Sur tout le territoire, on l'a bien compris.
C'est ça, ouais. C'est surtout le département du 04. Et tout le week-end encore une fois, suivre le fléchage, les épouvantails. Et pour plus d'informations, il y a des flyers qu'on peut retrouver dans des magasins, chez des producteurs aussi. Et le plus important, c'est le site defermenferme.com où toutes les informations sur toute la France sont dites.
Et vous retrouverez les liens du site De Ferme en Ferme dans le podcast, donc De Ferme en Ferme, tout attaché.com, pour retrouver tous les itinéraires qui pourraient être empruntés pour prendre les différents chemins, compris eux-mêmes les agriculteurs, pour devenir agriculteurs. Et là, peut-être que les consommateurs vont pouvoir aussi emprunter différents chemins pour découvrir un métier qui est essentiel. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la nourriture que vous produisez sert à développer une économie, certes, mais ça sert aussi à se sentir bien, le bien-être. Tout ça, je suppose qu'il y aura moyen d'en parler. Et c'est bien d'aller rencontrer les professionnels pour se rendre compte de leur humanité, de se rendre compte de le contact, hein, dans un siècle où on communique beaucoup avec le numérique, c'est important d'aller rencontrer les gens sur place. Que peut-on dire d'autre sur De Ferme en Ferme, un week-end pour découvrir, toute l'année pour revenir, ça c'est le slogan.
C'est ça, c'est que c'est les agriculteurs qui participent, après bon, ça va, c'est ça, c'est recréer du lien social aussi entre les consommateurs et les agriculteurs. Et du coup, suite à l'événement, ils pourront retourner, s'il y a de la vente sur la ferme, retourner voir à la ferme pour acheter les produits qu'ils ont découverts lors de ce week-end-là. Et ça leur permet aussi de découvrir des fermes qui ne font pas forcément de la vente sur la ferme, mais qui, lors de ce week-end-là, vont ouvrir leurs portes. Et suite à ça, retrouver donc dans des magasins de producteurs ou sur les marchés tout au long de l'année.
Eh bien, le mot de la fin, bon, je pense qu'on a tout dit. J'espère que vous avez le sentiment d'avoir tout dit sur cet événement. Je reviendrai vers vous pour que vous, notamment, je me retourne et sur Clément Denier lorsqu'on montera un plateau sur la question de la maltraitance animale, parce que ça peut être intéressant de savoir comment est-ce que tu travailles et comment, dans quel état d'esprit tu travailles et que tu mènes ton projet. C'est très très important d'en informer les auditrices et les auditeurs. Et puis je reviendrai aussi vers Claire Joubert pour qu'elle vienne peut-être éclaircir sur certains sujets, la question du bio, la question de l'éthique, la question de comment est-ce qu'on tient une ferme de manière humanisée, si j'ose dire. Et évidemment, je reviendrai régulièrement vers Elsa Rib, qui elle aussi reviendra régulièrement, puisque c'est toi qui est venue vers nous, et je t'en remercie infiniment, parce que ça me permet de découvrir un monde que je connaissais, parce que moi aussi, c'est difficile de trouver un Français qui n'avait pas un agriculteur quand même dans sa famille à un moment donné. Mon grand-père était, enfin mon arrière-grand-père était berger, et ça a laissé beaucoup de traces parce que à travers les photos, à travers les témoignages, la terre, c'est celle sur laquelle on vit et sur laquelle on produit des choses pour pouvoir continuer à vivre. Merci infiniment, vous êtes les bienvenus, venez vous exprimer sur votre métier, sur vos pratiques. La porte vous est grande ouverte et merci beaucoup d'être venu nous informer. Je le rappelle, 23 et 24 avril 2022, de ferme en ferme, samedi 23 et dimanche 24 avril. C'est de tout au long de ce week-end de 10h à 18h. C'est une opération annuelle incontournable sur le thème de l'agriculture durable et qui est fléchée avec des épouvantails. Et puis vous pouvez évidemment aller surtout defermeenferme.com pour avoir tous les renseignements, tous les itinéraires, et vous retrouverez tous ces liens dans le podcast sur le site de fréquencemistral.com. Merci beaucoup et à très vite.